Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spécial étrange festival jour 7. Alors avant de démarrer, vous l'avez vu hier, il n'y a pas eu d'épisode parce que bon bah la maladie a un peu pris le dessus et je me suis dit que bon, valait mieux que je me repose pour mieux reprendre derrière et je pense que j'ai bien fait, très honnêtement, voilà. Donc pour le coup, aujourd'hui j'ai pu enchaîner trois films, voilà. Et ne vous en faites pas, le film que je devais voir hier, je le rattraperai un autre jour. Mais donc on va tout de suite commencer les films d'aujourd'hui avec Goliath de Adilkhan Yerzadov.
Ouais. Да, везде. Одинаково.
Только меня? Два, есть.
Нет.
Шесть. Семь.
Le chef criminel Pochaev mène d'une main de fer le village de Karatas, tuant ceux qui cherchent à s'opposer à lui. Il compte pourtant sur Arzu, qui devient le bras droit du tyran, mais peut-il vraiment lui faire confiance ? Alors, bon, si vous voulez, c'est Yerzadov, c'est le réalisateur fétiche de l'Étrange Festival, c'est un réalisateur kazakh, et il y a pas d'édition de l'étrange normalement qui se fait sans un film de Yerzadov. Voilà. L'an dernier, je crois qu'il y en avait même deux. J'en avais vu qu'un. C'était Immunité Collective et c'était ma pire séance du festival. Voilà. Donc autant vous dire que j'y allais à reculons, Goliath, pour le coup. Mais à reculons très, 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 très fort. Hein. J'ai vraiment hésité à le programmer. Et pour le coup, je me suis dit, bon, j'en ai vu qu'un. Ça arrive. Hein. Il y a plein de réalisateurs. Bon, bah, ok, il y a un film qu'on n'aime pas, mais le reste, c'est génial. Donc pourquoi pas. Allons-y. Malheureusement, on a rempilé ça, voilà, sur cette année-là, en termes de ne pas aimer le Yerzadov, voilà, pour le coup. Je suppose que c'est un réalisateur avec lequel j'ai du mal, voilà. Je trouve qu'on est vraiment sur les mêmes thèmes que Immunité Collective, traités différemment, hein, mais c'est les mêmes thèmes. C'est ces histoires un peu, voilà, de gangsters, mafia dans la campagne kazakh, avec il y a aussi un flic un peu ripou, etc. Enfin bref, c'est les mêmes thèmes globalement, je trouve, que Immunité Collective, juste vraiment traité très différemment. En tout cas, voilà, on retrouve beaucoup de choses. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un réalisateur qui est extrêmement prolifique. Hein, voilà, s'il y a un film par an, enfin un film à tous les étranges, c'est qu'il en fait énormément. Peut-être vaudrait mieux réduire la cadence et voilà, plus réfléchir au film, parce que bon voilà, non, en vrai je fais un peu dur. L'histoire en soi, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, hein, tout de même, contrairement à Immunité Collective où je ne sauvais rien, où j'étais sorti de la salle. Contrairement à Immunité Collective, je trouve que les bonnes idées sont dans les personnages. Il y a ce personnage du coup du tyran qui est pas mal, hein, pour le coup, voilà, mais qui est pas du tout développé en fait. Voilà, on sait, c'est voilà, il y a juste cette scène au début où on le voit intrigante, voilà, où on le voit un peu juste taper des gens et c'est tout. Après, il n'y a pas vraiment plus de développement sur lui, si tant est qu'on puisse appeler ça un développement, mais au moins ça pose question. Et ensuite, on a ce truc du personnage bref, secondaire qui devient principal ensuite, qui est celui qui a une commotion en allant à la guerre, je sais plus son nom. Bref, mais qui pour le coup lui va offrir les choses les plus intéressantes de cette histoire là parce qu'on sent qu'il a une honnêteté qui est folle, on sent qu'il est diminué à cause de l'armée, etc. Et il y a vraiment des choses qui, je trouve, vont s'offrir par rapport à ce personnage là qui vont ramener un aspect plus dramatique et plus profond, qui moi m'a pas mal plu. Pour le coup, voilà, j'ai bien aimé l'aspect profond avec ce personnage là maintenant, si je dois être honnête avec vous, si ça c'est profond, je trouve que le reste c'est extrêmement plat. C'est aussi plat que j'ai pas d'allégorie, bref, mais c'est très plat, c'est très très plat, et il y a vraiment pas grand chose en profondeur. Et en fait, si vous accrochez pas à l'histoire premier degré, qui pour moi est pas si folle que ça, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de texte sous-jacent, cette histoire qui, bon, c'est une histoire de vengeance, sauf qu'elle n'est pas vraiment montrée comme telle, enfin, c'est un peu bizarre, Je sais pas, j'ai pas tout compris. Je trouve qu'il y a des moments où le montage rend pas du tout service au film, voilà, où ça éloigne vraiment tout ce qui est en jeu au niveau de la compréhension. Voilà, effectivement, c'est un petit peu dommage à mon sens, parce que s'ils avaient voulu en faire un vrai revenge movie, ça aurait pu être pas mal. Mais pour le coup, là, j'ai l'impression qu'il y a des retournements de situation qui n'ont aucun sens. Et voilà, moi, j'aurais bien aimé voir le mec qui se déchaîne à la John Wick, etc., pour essayer de tuer le tyran du village, sauf que bah aucun moment c'est ça. Et voilà, je trouve que cette ambiguïté que je vous ai lue dans le synopsis du « est-ce qu'on peut lui faire confiance ?» n'est pas vraiment bien mis en avant. Du coup, voilà, si le film avait été centré sur cette ambiguïté, pourquoi pas, mais là ça l'est pas. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Voilà. Donc au final, ça fait que c'est beaucoup d'ennuis parce que... Bon, je sais pas, le fait que ce soit mal présenté, à mon sens, fait qu'on n'accroche pas à l'enjeu, l'enjeu du film, donc qu'on peine à le comprendre d'ailleurs, hein, pour le coup, je trouve par moment, qu'on peine à comprendre l'enjeu du film, et qu'en fait, c'est d'un ennui rébarbatif qui est assez... assez important. Et voilà, c'est quelques éclairs, où on se dit « Ah putain, il y a quelque chose derrière, etc. » et où ça devient intéressant. Il y a la fin aussi, la fin qui est vachement bien, je trouve, en termes de mise en scène notamment, et qui, pour le coup, fait une belle conclusion à l'histoire. Mais sinon, hormis ces quelques éclairs de profondeur, comme j'aime les appeler, et hormis les paysages, c'est vrai qu'ils sont très bien, la photo qui est franchement pas mal, il faut dire ce qui est. Voilà, c'est les paysages kazakhs, pour le coup, sont très très bien filmés. Hormis ça, c'est vrai que, voilà, à mon sens, il n'y a pas grand-chose qui reste. Et voilà, pour le coup, j'y allais avec de la bonne volonté, parce que sinon, j'y serais pas allé, vraiment. Je me suis pas dit, je vais y aller pour pouvoir défoncer le film, parce que voilà, je me suis vraiment dit, mais si ça se trouve, tu vas aimer. Donc, j'ai fait l'effort d'y aller, et bah écoutez, ça s'est mal passé, voilà, et... Je le regrette, après c'est comme ça, hein. Il y a des réalisateurs qui sont pas faits pour certaines personnes et je pense que Yarzanov est juste pas fait pour moi, voilà, que j'accroche pas du tout à ses thèmes, que j'accroche pas du tout à son cinéma, parce qu'il essaye quand même si c'est un drame, d'inclure de l'humour, et pour le coup, même l'humour, j'y accroche pas vraiment, donc... Je sais pas vraiment, juste son style ne me correspond pas, et pour le coup, je sais que je passe moins de temps sur cette critique que sur les autres, mais pour le coup, j'ai pas grand chose de plus à dire, voilà, c'est juste que je pense juste que c'est pas pour moi, et je ne pense plus aller voir de Yarzanov à l'étrange festival, voilà. Allez, on va passer à la séance suivante, qui était une séance Canal+, et avant de parler du long métrage, je vais... très brièvement, toucher un mot sur le court-métrage qui était présenté avant, qui en français s'appelle Les Nombreux Cris de Gary, voilà, qui était réalisé par Cody McLachlan et Nolan Sordill. C'est un mec qui, en fait, regarde une vidéo de singes, et en fait, plus il regarde, plus il se retrouve coincé, et il est obligé de faire le singe, et bref, la vidéo l'obstine, et il est un peu possédé par ce singe. J'aimerais toucher un petit mot pour dire que c'était un très 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 bon moment, voilà, parce que ça n'avait aucun sens par moment, et ça jouait beaucoup sur le ridicule et l'absurde qui, moi, sont des ressorts qui me touchent vraiment, en termes d'humour, et donc pour le coup, j'ai beaucoup rigolé dans ce court-métrage, et voilà, j'aurais bien aimé que ça pousse le truc encore plus loin, parce que je pense qu'il y avait moyen et ça m'aurait fait mourir de rire. Néanmoins, voilà, je trouve que c'est un court très réussi pour le coup, et j'aurais aimé que le film d'après soit aussi réussi, voilà, mais bref, dans tous les cas, si jamais, je dis de voiture Canal+, du coup, hein, si jamais vous avez Canal, je vous le conseille fortement, ce qui n'est pas le cas du long métrage du coup, et c'est parti, on va parler de Carnifex de Sean Life. Un documentariste vient filmer dans leur activité quotidienne de biologiste, chargé d'étudier la vie des marsupiaux dans un immense parc naturel ayant subi un important feu de forêt. Mais au fur et à mesure de leur périple, ils prennent conscience que le dérèglement écologique a permis à une espèce carnivore immémoriale de trouver refuge dans la forêt et d'y protéger coûte que coûte son territoire. Alors, c'est un film qui, bon, pour moi, m'a fait penser à un mash-up de deux films, mais dans un sens très négatif. C'est-à-dire que on a d'un côté le projet Blair Witch pour l'aspect exploration en forêt, pour l'aspect, je crois qu'ils sont trois en plus dans le projet Blair Witch, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour l'aspect en plus documentaire. Voilà, sauf que ce qu'il y avait à prendre dans le projet Blair Witch, c'est l'aspect fantastique. Bon, là, pour le coup, on peut comprendre que le film ne s'oriente pas vers ça, puisqu'il va sur un truc qui est beaucoup plus animaliste. Voilà, donc pour le coup. Bon, après, il reprend une créature un peu, pas mythologique, mais préhistorique. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça peut le faire. Voilà, on peut peut-être appeler ça du fantastique, mais c'est pas du tout comme dans Blair Witch. Mais surtout, ce qu'il y avait à reprendre de Blair Witch, c'est le found footage. Voilà, ce sous-genre du cinéma d'horreur qui... Enfin, le found footage n'est pas que réservé à l'horreur, mais voilà, je pense que les found footage les plus marquants, ça reste quand même les films d'horreur. Bref, ce genre cinématographique ou sous-genre, voilà, qui consiste en fait à regarder les images que les personnages ont filmées eux-mêmes, voilà. Donc vous avez le projet Blair Witch en film d'horreur, vous avez Rec aussi, très connu, voilà, et si je dois vous citer des exemples qui peut-être parleront plus à tout le monde, vous avez par exemple en France Babysitting, voilà, pour vous dire que c'est pas non plus quelque chose de très obscur, voilà, c'est accessible quand même à la portée de tout le monde. Il y a Paranormal Activity aussi, voilà, qui exploite le found footage, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a aussi en film d'horreur? On a Ne Coupez Pas, Ne Coupez Pas, voilà, c'est formidable. Bref, beaucoup de choses, récemment Play, bref, voilà, je vais pas tous les citer. Toujours est-il que le found footage, c'est un genre qui est très utilisé parce qu'il permet une immersion assez bah, conséquente pour le coup. Voilà, et c'est un genre qui reste quand même très pratique parce que, justement, comme je le dis, c'est, voilà, si vous voulez quelque chose, vous pouvez créer une ambiance, un truc à partir de pas grand-chose dans le sens où, voilà, on va avoir l'impression d'être dans le récit. Et pour le coup, pour un film comme ça, pour un film qui part en nature, qui voilà, veut essayer de jouer sur la peur, notamment de ce qu'il y a dans l'ombre, parce que c'est un film qui veut beaucoup faire ça, voilà, veut jouer sur l'ombre, sur ce qu'on ne voit pas et tout. Donc pour un film qui veut faire ça, se priver du found footage, je trouve que c'est une bêtise. Voilà, je trouve que c'est une bêtise dans le sens où c'est un peu du pain béni, en fait. Voilà, si vous voulez faire ça, c'est vraiment du pain béni. Et je trouve ça vraiment dommage, pour le coup, que ça ne le fasse pas, parce que, voilà, ça aurait vraiment gagner à le faire, et pour le coup c'est assez, assez bête parce qu'on la voit avec sa caméra en train de filmer pendant tout le film, mais jamais on ne voit les images, et c'est extrêmement frustrant déjà de l'une, et de deux, je trouve que ça dessert le récit, voilà, parce que pour le coup on a envie de voir les images, et le réalisateur fait le choix de filmer un petit peu comme un documentaire, je trouve, à mon sens, sur beaucoup de moments, et je trouve aussi que ça dessert le récit, parce que ça coupe totalement l'aspect voilà, fantastique, horrifique, etc. Donc pour le coup, ouais, en termes de... Je pense que le found footage, ça aurait été une putain d'idée. Les seuls moments où c'est vraiment exploité, c'est très brièvement quand elle sort son drone et qu'elle filme des choses au drone et qu'on voit ce que le drone filme, mais sinon... rien, voilà, sinon vraiment c'est pas du tout exploité, et je pense que le réalisateur avait peur que justement ça fasse un peu trop Blair Witch. Voilà, après ça c'est de l'interprétation. Maintenant, s'il avait vraiment peur que ça fasse trop Blair Witch, ça veut dire que bah, derrière il reste pas grand chose, parce que des films en found footage comme voilà, je vous en ai cité plein, ça, c'est, voilà, c'est pas, ça s'est pas arrêté à Blair Witch, ça a été beaucoup repris, beaucoup réutilisé. Donc si vous avez vraiment quelque chose à raconter, si vous avez vraiment quelque chose de vous-même à développer, ça fera pas Blair Witch, voilà. Donc pour le coup, je pense que voilà, il a été, bref, il a eu peut-être un peu peur, et voilà, je trouve à juste titre, parce que pour moi, il y a vraiment rien dans ce film. Bref. Et donc l'autre film, je peux vous en citer deux, hein, voilà, c'est un peu dans la même veine, mais que ça m'a rappelé, c'est Beast, qui était sorti il y a pas longtemps avec Idris Elba, et un film qui était sorti il y a encore moins longtemps et qui pour le coup là, voilà, m'a vraiment rappelé ça. C'est le Cocaine Bear de, je sais plus, Elizabeth Banks, je crois, qui réalise ça. Bref, voilà. voilà, en gros, ce survival face à un animal qui est absolument déchaîné et pour le coup qui est très 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 dangereux. Voilà, donc ça mixe ces deux films pour moi. Voilà, que ce soit l'ours ou je sais plus ce que c'est dans Beast d'ailleurs. Sauf que l'aspect Cocaine Bear et Beast, je le trouve absolument sans inspiration. Voilà, je trouve que pour le coup, même si tu peux rater tout ton film, mais la scène où la créature passe enfin à l'attaque, il faut que ce soit réussi. Tu peux rater tout le reste, mais cette scène-là, elle doit être réussie. Et même ça, c'est d'un désastre mais monumental. Déjà, je trouve qu'il y a une erreur, mais en termes de temporalité, je trouve ça incompréhensible d'avoir fait ça. C'est qu'il y a une nuit où il se passe rien, enfin, en tout cas pour les personnages principaux, et tout se passe sur la deuxième nuit, voilà. Et pour le coup, j'ai trouvé ça super dommage de vraiment ne pas avoir laissé ça sur une nuit, faire ça sur, voilà, juste une nuit. Je pense que ça aurait été nettement plus intéressant, voilà, parce que là, pour le coup, il y a des ruptures dans le rythme du film qui servent à rien, qui sont un petit peu inutiles, et enfin, c'est bizarre, voilà. Et donc, quand vient le moment où, voilà, avec la créature, déjà, elle est en CGI, c'est pas bien fait, bon, voilà, bref, on n'est plus à ça près. Mais en plus, ça n'a aucun impact, ça n'a aucun impact. Je pense à ce moment où déjà, on voit pas vraiment quand la bête attaque, hein, attaque les gens. Voilà, et il y a une scène, mais qui après, ça arrive déjà quand la bête a commencé à attaquer depuis un petit moment. Mais bref, quand les deux personnages féminins se retrouvent toutes les deux, pour vous expliquer un petit peu la scène, bref, elles ont une voiture, donc pour aller exprès dans la forêt, et donc il y a à l'avant, il y a un câble métallique que vous pouvez attacher à un arbre pour tracter la voiture si jamais elle est bloquée, ce qui est le cas. Elle tracte la voiture, voilà, il y en a une qui est dans la voiture et l'autre qui reste dehors. Déjà, pourquoi, si vous avez tant peur de la bête, pourquoi rester dehors? Bref, et en plus, le truc totalement mais débile scénaristiquement, enfin la ficelle scénaristique, déjà c'est une facilité, et puis bref, elle est bête. Le câble pète, il part comme par hasard dans la tête de la fille qui était restée dehors, et on sait pas pourquoi ça fait renverser la voiture, voilà, ça fait faire des tonneaux à la voiture dans un fossé qui, manifestement, en tout cas, moi, je ne l'avais pas vu avant, voilà, qui apparaît sur le moment, et la voiture fait des tonneaux absolument au ralenti, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu une chute, enfin, un accident de voiture au cinéma aussi faible. Il y a tellement peu d'intensité, c'est désolant. Et à partir de cette scène-là, le mixage est affreux. J'ai lu dans le programme de L'Étrange que, apparemment, c'est un ancien chef monteur, le réalisateur, et qu'il avait accordé beaucoup d'importance au son. À partir de cette scène-là, le mixage est affreux. Il y a vraiment des moments qu'on n'entend pas. c'est comme si c'était étouffé alors qu'il n'y a aucune raison. Et je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est par rapport à la créature et au bruit de la créature, je ne sais pas si juste ils ont merdé, je ne sais pas si c'est le son de la salle qui a bugué, mais en tout cas, il y a eu un problème de mixage, bref, à partir de là. Et en fait, je trouve ça assez ironique que le mec soit chef monteur, parce que la séquence qui suit avec le carnifex, du coup, voilà, qui est une créature, je sais pas si elle existe vraiment d'ailleurs, hein, mais qui est une créature mythologique, non, du coup, je dis tout le temps ça quand je dis créature préhistorique, voilà, qui, bref, la scène d'après, elle est mal découpée, mal mise en scène, et surtout, mais mal montée, voilà, il y a des faux raccords, mais de partout, mais vraiment de partout. Bah écoutez, apparemment, pour votre culture, c'est un animal qui a existé, a priori, voilà. Mais qui, pour le coup, comme c'est dit dans le film, n'a plus rien à faire ici, voilà. Qui s'est éteint il y a 46 000 ans, apparemment, voilà. Si vous voulez un peu de la culture. Mais donc, pour revenir sur cette séquence-là, oui, je ne comprends pas, en fait, le découpage. Et puis même, enfin, il y a un moment où le carnifex va tirer un des personnages par la jambe, genre lui attraper la jambe et le tirer sur plusieurs mètres, le gimmick classique des films d'horreur, sauf que j'ai l'impression qu'il l'attrape quand elle est dans la voiture, et que sur le plan d'après, elle n'est déjà plus dans la voiture alors qu'il n'a pas commencé à tirer, ou alors c'était un truc de protection pour j'ai pas compris. Enfin bref, la fin était très très mal découpée, très mal montée et très mal mixée. Voilà, j'ai pas compris pourquoi c'était autant bâclé en fait. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage en fait, parce que ce film là en soi il peut être bon. Hein, voilà, on l'a vu, hein, même un Cocaine Bear qui est pas un film, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est rigolo. Voilà, ça passe. Et là, ça veut traiter le film, mais enfin. Tellement sérieusement de tout le long, parce que en même temps il y a une volonté de faire passer un message écologique, dans le sens où oui, les forêts brûlent, les espèces sont en danger, ok, et je suis le premier à dire que voilà, il faut agir sur l'écologie et contre le réchauffement climatique, mais en fait quand tu fais passer ça de manière absolument non subtile, genre vraiment quand on dirait un spot du gouvernement, et que voilà, tu bref, ça sert pas vraiment l'intrigue, à part si ce n'est de dire que bon bah c'est effectivement les feux de forêt qui ont permis aux carnifex de venir, mais sinon voilà, c'est pas du tout essentiel et c'est pas subtil et c'est mal fait en fait, tout simplement c'est mal fait, et c'est le cas pour l'intégralité de ce film, je trouve c'est mal fait, ça ne dégage rien, c'est un concept, une idée qui est vue et revue, voilà, qui est empruntée à plusieurs films, mais voilà, c'est des idées qu'on a déjà vues, et c'est exécuté, je trouve, avec une nonchalance, avec un non-impact, voilà, avec un non-rythme aussi, et voilà, je trouve qu'il y a énormément d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs pour que ce soit un bon film, et voilà, c'est dommage, hein, voilà, c'est dommage, parce que pour le coup, je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc, surtout avec cet animal, hein, que moi, personnellement, je connaissais pas, et qui, voilà, pour le coup, après, j'ai pas vu, donc je ne juge pas la qualité, mais par exemple, en termes de réveiller des animaux qui n'existent pas, bah, il y a The Meg, voilà, qui apparemment est pas mal, enfin, qui est pas bien, pardon, justement, qui est très mal du coup, voilà, qui apparemment n'est pas un bon film, mais ça va réveiller, voilà, le mégalodon, etc. Donc effectivement, je trouve que c'est une bonne idée d'exploiter des animaux qui sont aujourd'hui éteints, mais il faut bien le faire, voilà, et là pour le coup, malheureusement, ce n'est pas le cas. Allez, on va passer au dernier film de la journée. Est-ce qu'il a sauvé ma journée, outre, voilà, les cris de Gary qui imite le singe, mais bon, c'était 15 minutes sur... Voilà, déjà pas mal de temps. Donc bref, on va passer au dernier long métrage qui est You'll Never Find Me de Josiah Allen et Indiana Bell. En pleine nuit, alors que la tempête fait rage, une jeune femme dont le besoin vient frapper à la porte du mobilhome de Patrick, méfiant et solitaire. Il la laisse entrer. Intrigués et soupçonneux, tandis qu'ils apprennent à se connaître, ils se sentent menacés. Mais que doivent-ils vraiment craindre ? Alors écoutez, c'est un film qui, effectivement, sur le coup, au début, on ressent ça. On ressent ça où vraiment les deux sont très méfiants. Pour le coup, ça commence d'abord dans le sens de Patrick, voilà, où en fait elle arrive, cette femme, elle a l'air un peu étrange, elle est pieds nus, il pleut, il y a des orages, enfin bref, la pluie est très 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 insistante, et en fait on sait pas trop d'où elle sort, elle a dit qu'elle était à la plage et que elle est venue là et que bon bah voilà, elle savait pas trop où aller et qu'elle cherche juste voilà, à appeler quelqu'un, un taxi pour rentrer à son hôtel. À partir de là, Patrick se méfie, il se dit c'est bizarre, etc. Bref, on sent qu'il y a de la méfiance. Et en fait, après, ça va se retourner, mais vraiment pas longtemps après. Et en fait, c'est la fille, voilà, où on va commencer à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à la trouver un peu moins sus, on va dire. Et pour le coup, voilà, c'est Patrick qui va passer dans le coin un petit peu, oula, il est bizarre. Et pendant un moment... Le film va effectivement renvoyer la balle, voilà. Les deux vont dire des choses assez mystérieuses et assez bizarres, et pour le coup, je trouve que c'est une mécanique qui, quand elle est exploitée dans le film, marche extrêmement bien. Voilà, je trouve que le film, d'ailleurs, aurait dû continuer sur tout le film sur cette mécanique-là, parce que je trouve que voilà, ce truc de voilà, est vraiment exploiter l'anxiété sociale et tout, machin, de « mais qu'est-ce qu'il peut me faire ?» etc. Et en fait, qui sait, parce qu'elle est venue à ma porte, je l'ai accueillie, mais je ne sais rien de cette personne. Et l'autre, bah, par ailleurs, peut se dire, mais en fait, j'ai toqué à la porte du premier qui voulait bien m'accueillir, mais en vrai, qui est ce mec ? Ça peut être un gros psychopathe, voilà. Et en fait, je pense que le doute mutuel, il aurait été super intéressant à entretenir tout le long du film. Malheureusement, c'est pas fait, enfin, c'est fait, mais pas de la bonne manière, je trouve, dans le sens où, ça aurait dû être fait à 50-50, et en fait, bon, on prend assez rapidement le point de vue de, je crois qu'on n'a pas son nom d'ailleurs en personnage féminin, bref, mais le point de vue de la femme, bon, qui a priori n'a pas de prénom, voilà, le personnage de cette femme, donc la visiteuse, il l'appelle, bref, qui, voilà, et on prend beaucoup plus son point de vue. Voilà, ce qui est dommage, voilà aussi, je trouve, parce que on est aussi dans la reproduction des codes du cinéma de genre, mais voilà, qui sont pas forcément positives, je trouve. Voilà, de vraiment juste faire jouer sur la peur, voilà. Féminine, qui, bon, après, je peux comprendre, hein, voilà, et c'est vrai que je me rends compte, hein, aussi avec le temps et à force de voir des films et d'avoir de l'expérience de vie, que certains films sont pas aussi sympas que ce que je pensais, notamment Men, voilà, ou d'Alex Garland, où je comprends maintenant. Enfin, maintenant, j'ai pas eu la prise de conscience là, à l'instant. Mais oui, effectivement, je comprends les critiques qu'il y a pu y avoir autour du film, etc. Dans le sens où c'est souvent des gens, en fait, bah, qui vont s'inscrire dans une logique de male gaze, hein, tout simplement. Voilà, qui vont essayer de parler de voilà, cette peur des femmes. Enfin, alors oui, alors il y a peur des femmes et peur des femmes. Peur des femmes dans le sens où le personnage masculin de Patrick a clairement misogyne, hein, pour le coup, et la peur du point de vue de la femme, voilà. Ce qui peut être un sujet très intéressant à traiter, pour le coup, voilà, et il y a beaucoup de cinéastes, et en particulier de réalisatrices qui le font bien, mais il y a aussi tout ce male gaze, hein, qui se perpétue, et donc du coup, oui, c'est dommage que on prenne ce point de vue-là. Après, je pense que les réalisateurs ne voulaient pas tomber dans on fait passer la femme pour la méchante. Je pense que c'est quelque chose qu'ils voulaient éviter, d'où le fait que ça ait pris cette direction-là. Mais en fait, à partir du moment où s'ils avaient mis les deux sur un même pied d'égalité, ça serait passé, en fait, parce qu'il n'y aurait rien eu de problématique ou quoi. Donc voilà, pour le coup, je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Malheureusement, c'est pas fait, c'est pas exploité. Et donc du coup, effectivement, on va un peu, je trouve, se rapprocher en termes de propos de ce qu'avait pu faire Alex Garland dans Men, voilà, petit à petit. Bref, et même si pour le coup, c'est un petit peu, je ferai peut-être aussi la même critique sur Men, hein, mais c'est un film qui, dans sa forme, a des grandes qualités, mais qui, dans son fond, voilà, passe un peu à côté de la plaque, je trouve. Voilà, maintenant, c'est vrai que You'll Never Find Me, c'est un film que j'ai envie d'encourager. Voilà, je suis sorti de la salle avec Alexei, hein. Je pense pas qu'il écoute ça, parce que voilà, il fait partie des gens qui font des podcasts mais qui n'en écoutent pas, dont je fais aussi partie. Mais je lui ai dit, c'est un film auquel, voilà, en conseil de classe, je lui donne les encouragements, parce que c'est un élève qui essaye, qui a vraiment des bonnes intentions et qui n'y arrive pas, mais c'est pas de sa faute, voilà, pour le coup. Enfin, c'est pas de sa faute, façon de parler, mais bref. Moi, pour moi, c'est vraiment les encouragements. C'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment sympathique, qui a des défauts d'écriture, hein, voilà, c'est indéniable qu'il y a des défauts d'écriture et qui gagnerait à, pour le coup, voilà, être un petit peu mieux écrit et à prendre des trames scénaristiques différentes, hein, même si en soi, la fin où tout se mélange et où, voilà, il y a beaucoup d'esthétiques aussi différentes qui se mélangent, que ce soit les lumières rouge et bleu, que ce soit ensuite l'esthétique jaune, etc. Bref, que ce soit le bleu de la voiture, bref, je voilà, j'aime bien tout ça, j'aime bien quand ça se mélange, ça perd un peu, bref, en soi, c'est un petit peu un aveu d'échec, je trouve, voilà, de faire cette scène où tout se mélange, parce que, bah, bref, ça montre que il faut rajouter de la complexité, sinon le film en tant que tel ne tient pas. Donc bref, il y a des défauts d'écriture, et j'en ai parfaitement conscience. Par contre, en termes de forme, c'est super intéressant, parce que c'est vraiment un huis clos dans un mobilhome. Voilà, on sent que le film a été fait avec vraiment très peu d'argent, et pour autant, ce qu'ils arrivent à faire, je trouve, en termes de mise en scène, c'est super intéressant, comment ils arrivent à enfermer leurs personnages, que ce soit un enfermement par l'image, voilà, dans le cadre, avec des cadres extrêmement serré, voilà, où on va ensuite avoir une anxiété qui donc se fait d'abord par l'image et par le cadre, qui va ensuite se rajouter, enfin ensuite qui se est déjà là, mais bref, qui, enfin, où il y a aussi, pardon, une anxiété sonore avec cette pluie et cet orage qui est là, mais en permanence. Et ensuite, on va avoir cette anxiété qui est faite à base de la lumière. Voilà. Et la lumière, je trouve que c'est très intelligent. Voilà, au bout d'un moment, il y a une coupure de courant, et donc c'est vrai que ça réduit considérablement. Déjà que avec les plans très resserrés qu'on avait, on n'avait pas vraiment une vue d'ensemble. Le fait qu'il y ait une coupure de courant, ça réduit encore plus ce qu'on voit. Et donc voilà, je trouve que ça joue sur l'anxiété des personnages autant que sur la nôtre. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très puissant. Toujours, et en plus, voilà, il y a aussi cette évolution, pardon, où par exemple, il y a une lampe qui est d'une couleur classique, enfin jaune-orange, quoi. Et à un moment, on va poser un chiffon dessus et ça va faire en fait une lumière toute rouge, voilà, et ça va passer dans une esthétique totalement différente. Donc il y a une intelligence et une économie, je trouve, en termes de voilà, de comment créer l'anxiété à partir de peu. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'encourager ce film, envie d'encourager ces cinéastes, parce que je trouve qu'il y a quand même des excellentes choses dans ce film, voilà. Et ce serait dommage de l'enterrer, parce que effectivement, le scénario pêche, voilà. Pas de A à Z, hein, pour le coup, il y a des très bonnes choses aussi, je trouve, dans le scénario. Pas de A à Z, mais voilà, c'est un film qui passe pas à côté de son concept, peut-être un petit peu, mais pas, moi je trouve pas forcément, mais voilà, qui en tout cas a énormément de qualité, principalement dans la forme, mais aussi dans le fond, hein, voilà, c'est pour ça que je tiens quand même à insister, et pour le coup, voilà, je pense que c'est un film qu'il faut encourager, voilà, et j'espère que, bah, c'est un premier long métrage, hein, donc j'espère que ce duo va nous refaire des films, tout simplement, et voilà, moi je pense que ça peut être très très bien, et en tout cas, j'ai hâte de voir, voilà, ce que ça peut donner avec un peu plus d'argent et peut-être, bon bah voilà, un petit peu meilleur scénario, mais bref, on verra bien. En tout cas, voilà, pour le coup, c'est un film, je trouve, qui moi a sauvé ma journée, devant lequel, voilà, je vais pas vous dire que c'est un film exceptionnel, mais en tout cas, ça m'a pas déplu, et en fait, là, j'ai vraiment vu l'aspect positif avant tout, et toutes les bonnes choses qu'il y avait dans le film, et pour le coup, ça m'a permis de, voilà, d'apprécier le moment. Je vois les défauts, bien évidemment, mais ça m'empêche pas d'apprécier ses qualités. Allez, c'est la fin de cet épisode, tout simplement. Alors, demain, mardi, je sais que j'ai deux films. Il me semble que je commence par Kennedy, voilà, en compétition, qui était à Cannes. Voilà, enfin, de toute façon, demain, c'est deux films en compétition. Donc, effectivement, Kennedy et Concrete Utopia, voilà, aussi en compétition, qui, en tout cas, je sais pas si c'était à Cannes, je crois pas, mais bref. Voilà, bref, mais toujours est-il que voilà, c'est les deux films que je vois demain. Du coup, le changement qui sera fait dans mon programme, c'est que je ne verrai pas Club Zero mercredi, voilà, que je verrai The Theory of Everything à la place, parce que du coup, c'est le film que j'ai loupé hier soir et qui pour le coup est en compétition, donc j'ai envie de le voir. Et donc, Club Zero, je le verrai vendredi, voilà, qui sera ma dernière journée au festival, mais j'en reparlerai. Mais pour le coup, ouais, Club Zero, voilà, que je verrai juste avant The Zone of Interest, qui est ma plus grosse attente de ce festival, parce que ça a l'air exceptionnel. Bref, on a le temps pour parler de tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, et pour ma part, je vous dis à demain pour un autre épisode.